très heureux d'accueillir Jean-Louis Fournier, qui connaît bien Montpellier, qui est venu à plusieurs reprises dans notre ville pour ses précédents livres. Et donc, autour de ce dernier livre, Où on va papa, paru aux éditions Stock, qui a remporté le prix Fémina, et qui vient même d'ailleurs de remporter, on faisait le compte des prix que vous aviez reçus, Jean-Louis, et je crois qu'il y en a un tout récent qui s'est ajouté, même deux très récents, en tout cas un qui s'est rajouté hier soir, un prix décerné par un peu plus de 4000 journalistes de la presse nationale et régionale, et qui s'intitule le prix, c'est un nouveau prix, 3 ans, le Globe de Cristal, voilà. Il y avait d'ailleurs une cérémonie pour la première fois de remise de ce prix sur France 3 hier soir assez tard. Également un prix que vous ont décerné des jeunes lycéens du lycée Clémenceau, deux classes de seconde, un nouveau prix aussi créé par deux professeurs de français qui encadrent ces jeunes lycéens, qui s'appelle le Privilège. Et nous étions d'ailleurs tout à l'heure au lycée Clémenceau pour une rencontre avec les lycéens. Voilà, alors Jean-Louis Fournier, bon, on vous connaît bien, vous avez écrit une bonne vingtaine de livres, des livres toujours au ton humoristique, mordant, impertinent d'ailleurs, comme le sont vos titres. Alors je rappellerai quand même la fameuse grammaire française et impertinente, ou bien l'arithmétique appliquée et impertinente. D'ailleurs, dans cette arithmétique, on était invité à calculer le poids du cerveau d'un imbécile, le volume du pape, l'envergure de la Joconde. Voilà, donc des problèmes particulièrement excitants. Vous aviez aussi écrit sur les sciences naturelles et impertinentes et créé des anti-héros qui ont été des héros de bande dessinée, mais aussi évidemment des héros de livres. Il y avait donc Anti-vol, l'oiseau qui a le vertige, et puis la noiraude, la vache neurasthénique. Voilà, parce que il faut rappeler qu'avant de publier des livres, enfin vous avez, j'imagine, toujours écrit, évidemment, mais avant de publier principalement des livres, vous étiez réalisateur pour la télévision, et vous avez été le complice de Pierre Desproges, évidemment, on vous le rappelle toujours, mais c'était très important et ça fait rire des millions de Français, cette minute donc nécessaire de Monsieur Cyclopède. Vous avez un petit un souvenir particulier de ce travail avec Pierre Desproges ?
Moi, j'ai un grand souvenir de Desproges. C'était un grand ami, on n'avait pas besoin de parler pour se comprendre, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est très amis. Puis on avait le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que on était un peu tous les deux des écorchés qui faisions semblant d'être méchants. Il vaut mieux faire semblant d'être méchant que semblant d'être gentil. Et donc c'est ça qui nous rapprochait surtout. Et puis c'était un type qui avait une grande richesse intellectuelle. Je trouve que ses textes sont toujours irréprochables. C'était un humoriste dont on n'avait pas honte de rire, ce qui n'est pas le cas de tous les humoristes actuellement. Parce qu'il y avait une qualité du langage, il y avait quelque chose il y avait de la belle ouvrage. On riait vraiment d'une façon fine et subtile. Et puis humainement, c'était vraiment un type très très bien. Pour reparler tout à l'heure, là, on a énuméré le nombre de prix que j'ai eu, ce qui est très très. Je suis très flatté, d'autant que je n'ai jamais eu aucun prix à l'école et que j'ai été mis à la porte assez souvent. L'établissement qui ne me trouvait pas ma présence tout à fait désirable pour des choses normales. J'ai mis par exemple un jour la Sainte Vierge dans les WC de l'institution, et ça c'est des choses qu'on ne pardonne pas. Mais à l'époque je faisais de l'hygiène esthétique, c'était pas la Sainte Vierge que j'avais mis dans les chiottes, c'était une représentation qui n'était pas digne d'elle, c'était de la morale esthétique, mais les curés ne l'ont pas compris. Ils m'ont viré. Et je suis content parce que ces curés qui m'ont viré, d'ailleurs d'une façon pas très élégante, et le supérieur a appelé ma mère et puis lui a dit, voilà, je vous remets votre fils, vous savez, comme canton. Prenez votre fils. Nous n'en voulons plus. Et ma mère lui a dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire, monsieur le supérieur? Monsieur Chanoine, c'est un chanoine. Et lui a dit, madame, on ne peut rien en faire. Il ne fera jamais rien. Formidable. J'espère que ce chanoine qui est mort depuis très longtemps est en enfer. et qu'il est puni par le Père éternel qui est beaucoup moins méchant que ce qu'on imagine peut-être, et pour avoir dit des choses aussi méchantes à ma mère. Puis, en plus, il s'était trompé. Enfin, voilà. Mais pourquoi je vous ai parlé ? Ah oui, je vous ai parlé des prix.
Des prix, oui, oui. Prix Fémina, oui, les globes de cristal, privilège.
Oui, alors le prix Fémina, je suis très content du prix Fémina, ouais. Pour la bonne raison que c'est un prix qui est donné par des femmes. Et il est bien connu que les femmes ont meilleur goût que les hommes. D'ailleurs, la preuve, regardez, il n'y a que des femmes ici, presque. Pardon, messieurs. Quelques hommes fins se sont égarés parmi vous, mais c'est bien. Et d'ailleurs, quand on va dans les fêtes du livre, c'est très vrai que c'est souvent les femmes qui regardent les livres. Alors, il y a à côté un espèce de gros mari à qui les femmes ouvrent le livre et lui disent « Regarde, c'est marrant, ça pue le mec. » Il fait « Oh oui, tu trouves ?» Et chaque fois, c'est pas grâce au mari que je vends mes livres, c'est grâce à vous. Alors, continuez. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Ah, c'est son mari qui
pardon
a
à votre
lit.
Mari, alors. Pardon, vous voyez, il y a des hommes quand même qui sont bien aussi.
On va continuer. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. Alors, je voulais souligner que l'humour caractérise votre œuvre. Et on peut dire que l'humour est aussi un peu votre oxygène dans la vie face au drame que vous avez vécu, notamment un livre. Important, un drame important aussi, c'est dans votre enfance, ce papa brillant médecin, alcoolique et suicidaire, et vous lui consacrez « Il a jamais tué personne, mon papa » chez Stock aussi, déjà. Et puis, bien sûr, vos deux enfants, Mathieu et Thomas, des enfants pas comme les autres, vous écrivez « Vos deux fins du monde », vous les appelez comme ça, ou encore « Vos deux miracles à l'envers ». Vos deux garçons, donc handicapés, auxquels vous consacrez aujourd'hui ce « Où on va, papa ?» qui a touché un très grand nombre de lecteurs. Et vous leur adressez donc une longue lettre, ouais. Où vous racontez des moments de cette vie quotidienne que vous avez partagée avec eux, avec ces petits oiseaux ébouriffés qui ne grandiront jamais et qui sont indatables. Alors, ma première question... Qu'est-ce qui vous a décidé à leur consacrer ce livre, maintenant, tardivement ?
Parce que quand on vit comme ça ce genre d'événement, à savoir deux enfants handicapés coup sur coup, je dis que ce sont des fins du monde. En général, une fin du monde, il y en a une, mais moi j'en ai eu deux. Et quand on se retrouve dans cette espèce de drame, on n'a pas tout à fait la tête à écrire un livre. On a plutôt toute son énergie et est utilisé pour essayer de trouver des solutions pour survivre. Parce que les gosses handicapés, c'est... Des enfants normaux, c'est déjà pas simple, mais des gosses handicapés, c'est des gosses normaux en pire. C'est-à-dire que les babysitters se précipitent pas pour les garder. Et j'ai remarqué une chose étrange, c'est que les enfants handicapés, une fille, une babysitter qui vient s'occuper d'un enfant handicapé, attrape en général la grippe le lendemain. À ce moment, les enfants handicapés donnent la grippe aux babysitters. Donc. Et il faut chercher une autre babysitter. Puis après, on se dit, mais ça fait rien, après on les mettra. On ne peut pas les mettre à l'école maternelle parce qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Alors, et à l'époque, il n'y avait pas de maison pour les prendre. Donc il a fallu qu'on emprunte de l'argent pour fonder avec des parents, pour fonder une maison. Puis après, l'État a pris en charge le fonctionnement. Donc, tout ça pour vous dire que on n'a pas la tête à écrire des livres. Ou alors, si j'avais écrit un livre, je l'aurais écrit, ça aurait été un livre vengeur. J'aurais dit, mais quelle bande de ces deux petits salauds vont me gâcher la vie, j'en ai marre. Et puis, le temps passant, les priorités domestiques ont disparu. Mathieu est au ciel. Je crois qu'il est au ciel. Il n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup de mal dans sa vie. Et Thomas est maintenant à la campagne dans une maison où il est très très bien, dans le confort, où on s'occupe bien de lui. Donc ça veut dire que je n'ai plus de problèmes domestiques. Et donc je peux me pencher un peu sur ce que j'ai vécu là. Et puis en plus, je me sens biodégradable, comme vous tous, pardon de vous dire froidement, mais nous sommes tous biodégradables, et je me sens particulièrement biodégradable. Et donc, avant que l'irrémédiable n'arrive, je voudrais témoigner un peu de cette aventure d'avoir eu deux enfants handicapés que j'ai vécu un peu différemment des autres. C'est-à-dire que j'ai dans mon esprit quelque chose qui fait que j'ai tendance à même dans les situations les plus dramatiques, à voir toujours un petit peu l'insolite des situations. L'insolite et quelquefois le comique. Comme sont beaucoup d'enfants d'ailleurs. Les enfants ont un petit peu cette espèce de chose. Les enfants sont capables involontairement de leur mère d'avoir un fou rire parce que quelqu'un se casse la gueule à côté d'eux. Donc, les adultes, on a plus la complaisance de nos malheurs. On reste toujours dans nos malheurs. Tandis que les gosses, ils grappillent du rire dans des drames. Ils rient, pleurent. Et moi, j'ai un peu fait ça avec mes enfants. Je ne me suis pas enfermé dans une espèce de grand effondrement en disant c'est la fin du monde, quelle horreur, quelle tristesse. J'ai essayé de rire, parce que c'est vrai que dans tout, il y a des choses amusantes. Et c'est vrai que les enfants handicapés sont des inventeurs de trouvailles. Ils font du surréalisme sans le savoir, ils font de l'absurde sans le savoir. Alors, quand on va au théâtre, par exemple, les gens qui aiment bien le théâtre de l'absurde, ou qui aiment bien le non-sens et toutes ces choses-là, rient énormément quand ce sont des gens normaux qui font des choses folles un peu. Il y a du théâtre d'avant-garde comme ça, où vraiment les comédiens se comportent comme des gens un petit peu anormaux. Mais quand ce sont des anormaux qui font vraiment des plaisantes, qui font des bêtises, mais spontanément, parce qu'eux, de ça, même pas, ils font des bêtises, ça, les gens s'interdisent de rire. Alors, c'est pas tout à fait normal, ça, parce que c'est vrai que les enfants handicapés sont quelquefois excessivement drôles. Moi, je sais, j'ai emmené des proches.
Dans le livre, vous
chercher,
en parlez.
Oui, chercher mon fils Thomas un jour. Il ne voulait pas trop. On a toujours. C'est vrai que quand on ne connaît pas ce monde-là, on n'aime pas trop. Eh bien, il a été absolument séduit. Lui qui était le roi de l'absurde, tout ça, il a vu de l'absurde en live. Les gosses, je me souviens, un nain qui est venu le voir, une espèce de grand mec, il l'a salué, il l'a embrassé, je ne sais plus quoi, puis tout d'un coup il a sorti des ciseaux et puis il lui a dit, maintenant je vais te couper en deux. Vous voyez, des espèces de trouvailles qu'on aimerait bien mettre dans des dialogues de films ou de théâtre. Ça serait fort bien, on dirait quelle hauteur, quelle imagination. Alors, quand c'est un handicapé qui le dit, personne ne rigole, pourtant c'est quand même marrant. Alors moi j'ai pensé qu'il fallait rire aussi de leur bêtise et d'ailleurs ils le sentent bien quand on rit de leur bêtise. Ils sont très contents, c'est très gratifiant pour eux de rire. Moi, je raconte une anecdote de mon fils Thomas qui un jour a voulu mettre son pullover au lieu de le passer par le col, comme nous faisons, nous, les gens qui sont normaux. Il a voulu le passer par un minuscule trou qu'il y avait devant. Alors, il avait 7-8 ans, c'était un boulot énorme parce que c'était un trou comme ça, comme une petite pièce de monnaie. Il a tiré, ça a duré, je ne sais pas, un quart d'heure. C'était un sketch. Et à la fin, il est sorti. Ce truc, on a ri, et lui aussi. Et c'était extraordinaire, ça. On lui a laissé le luxe de nous faire rire. Parce que c'est ce que je raconte un peu dans mon livre, c'est que je me mets à la place d'un gosse handicapé. Quand il naît, qu'est-ce qu'il voit, la première chose, quand il ouvre ses yeux? Il voit pencher au-dessus du berceau deux visages de gens catastrophés qui font « Oh là 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 !» Vous vous rendez compte, quand vous arrivez sur Terre, quelle bienvenue, ça. Et puis après, le petit gamin anormal à 6 mois, il sait pas servir de sa cuillère, on va lui donner, il va se barbouiller de crème au chocolat, il va se mettre la cuillère dans les yeux, dans l'oreille, n'importe quoi. Quand c'est un gosse normal qui fait ça, on va chercher un caméscope et tout le monde est aux anges. Regardez, quand c'est un gosse handicapé, on rigole pas une seconde. On l'emmène pour le nettoyer. Et après, quand ils sont grands, les normaux font pas mal de conneries, j'en sais quelque chose, mais ceux qui ont de la paille dans la tête, ils en font encore des pires, des plus. Leurs bêtises à eux, on ne rit pas non plus. Et alors, moi, je pense que c'est bien quand même de leur laisser le luxe de nous faire rire. Parce que pour eux, vous savez, quand on voit des gens, imaginez que, moi, je ne sais pas, quand, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui est à l'hôpital, vous prenez pas une tête catastrophée en regardant le mec qui est malade. Parce que pour le gars qui est malade, vous voyez, de voir quelqu'un qui dit, putain, mais je meurs demain, alors. Vous avez une bonne mine, vous êtes souriant. Je crois que ça doit être pareil pour tous ces enfants. Il faut pas. Je pense que le rire, c'est un truc formidable. C'est une chose vachement importante. Moi, quand j'étais en classe, par exemple, j'étais outré de consignes où on disait interdit de rire. Je trouve que c'est grave d'interdire les gens de rire. Le rire, c'est une manifestation quelquefois d'intelligence. Ça n'est pas simplement rire, c'est pas rire bêtement. On a toujours l'impression que rire, c'est rire bête. Arrêtez de rire. Mais c'est formidable de rire. Le rire. Moi, j'ai eu beaucoup, j'ai eu des professeurs, j'en ai eu beaucoup, vu que j'ai changé pas mal d'école. Et les seuls professeurs qui m'ont, j'ai l'impression qu'ils m'ont amené quelque chose, c'est ceux qui m'ont fait rire. Hein. Parce que je me souviens d'eux, de ce qu'ils m'ont amené. Ceux qui ne m'ont pas fait rire, je ne me souviens pas d'eux, c'est comme s'ils n'avaient pas existé. Donc, c'est pour ça que je pense beaucoup à la vertu du rire. Je crois que le rire, c'est un truc important, et en plus, c'est un antalgique extraordinaire quand il vous tombe sur la tête des tuiles aussi gigantesques que des gosses handicapés. Alors là, je veux dire que vraiment, on ne peut pas faire mieux. Hein. Dans les salles de Richter, des catastrophes, je suis très très bien placé. À côté de Martin Gray. Vous connaissez Martin Gray ? Martin Gray, c'est un mec qui a eu des malheurs. Il raconte ses malheurs tout le temps, mais sans rigoler, lui. Mais il a des vrais malheurs, hein, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il est mort, non ? Ah, mais sa femme a été brûlée. Ça.
Oui, ses enfants, oui. Ben, non, c'était brûlé dans
c'était
un
tellement,
incendie.
C'était tellement extraordinaire, inouï, tragédie, la cargaison
oui.
de malheurs.
Oui, oui, tragédie terrible.
Qu'on avait presque envie de rire à un
oui,
moment.
Oui, oui.
On avait l'impression que c'était son fonds de commerce, ses malheurs. Ah, vous me rassurez.
Il a refait sa vie.
Vous me rassurez. Et il rit un peu maintenant, il est heureux.
Ouais.
Il prend son bonheur en patience. Hein ? Bon, c'est pas un drame pour la littérature, je pense. Comment ? Ben, c'est mieux qu'il n'écrive plus.
Alors, Jean-Louis Fournier, vous, au cours du livre, vous dénoncez, ou en tout cas, vous pointez du doigt un certain nombre de choses, et notamment que les parents en particulier, le père que vous êtes d'enfant handicapé, doit toujours avoir une tête d'enterrement, il doit porter sa croix comme un masque de douleur, écrivez-vous.
Oui. Oui, ça, c'est
alors,
ça.
Comment vous expliquez justement qu'on fasse grief à un parent d'enfant handicapé de rire par moment, de rire de ses enfants, de situations comiques qui sont provoquées?
Oui, mais justement, c'est tout à fait vrai. Moi, je pense que notre société, elle est étrange parce que elle aime bien que les gens aient des comportements conformes à ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu quand on savait que j'avais deux enfants handicapés, on s'étonnait que je sois gay. On avait l'air de me dire, écoutez, un petit peu de dignité, un petit peu de respect de vous-même. Quand on a eu des malheurs comme ça, on ne rigole pas, Monsieur Fournier, quand même. C'est hallucinant de dire ça aux gens qui ont des malheurs. C'est ceux qui ont eu des gros malheurs qui ont envie de rire. C'est pas quand on prend un antalgique, c'est parce qu'on a mal. Et donc, c'est inouï, cette société qui voulait... Et moi, je sais que j'étais très mal vu au milieu de certains parents d'enfants handicapés, même de médecins et tout ça, parce que je plaisantais sur mes enfants. Et ça, c'était une chose qui était hallucinante. Je me souviens, j'étais dans une maison, je crois que je le raconte dans le livre, d'ailleurs, une des premières maisons, celle qu'on a fondée, justement, j'ai été voir le médecin, il y avait les deux garçons... Thomas qui avait, je sais pas, qui devait avoir 8 ans, mais qui était déjà bien handicapé, vous savez, ça se voit un handicapé, hein, faut pas non plus, même sans être médecin. Et puis j'étais voir le médecin chef et je lui ai dit, écoutez docteur, par moments j'ai des inquiétudes, je me demande si mes enfants sont totalement normaux. Alors, et ça me faisait rire de dire ça. Bon, c'était un goût de la provocation, c'était du culot, tout ça, mais ça a été vécu. Tout le monde a raconté ça en disant, mais quelle horreur ce type. Il n'a donc aucun cœur. Mais c'est pas ça, le cœur n'est pas là. Hein. Moi, j'avais besoin de plaisanter, puis je faisais pas de mal à mes gosses en disant ça. Et puis, mais ça, bon, notre société n'aime pas trop. Elle aime bien que les comportements soient conformes avec les... Moi, ça m'a marqué. C'est un souvenir que j'ai qui date vraiment de très, très... très très ancien, je pense que j'avais 8-9 ans, il y a eu dans ma rue une dame qui a perdu son mari, c'était mon père qui le soignait, c'est pas mon père qui a tué le mari, hein, mais il le soignait, et là il n'a pas réussi à le soigner suffisamment, le type est mort. Et à l'enterrement, il y a eu l'enterrement, puis au retour de l'enterrement, il y a des gens qui ont dit, sa femme, la femme était souriante à l'enterrement, et il y a des gens qui ont dit, elle ne devait pas aimer beaucoup son mari. J'étais jeune à l'époque. J'étais indigné d'entendre des conneries pareilles. J'ai trouvé ça, mais d'une injustice. Parce qu'en plus, on aurait pu dire, bravo, courage. Eh bien non, elle n'aimait pas son mari. Parce qu'elle ne versait pas des larmes. Et ça m'avait indigné. Et je crois que je continue encore maintenant à me battre contre ça. J'aime pas qu'on attache comme ça des on pense pour les gens, se mettre à la place d'eux, c'est bien. quelque tour, on n'arrive jamais à se mettre à la place de personne. Comme actuellement, les gens qui me reprochent de faire de l'humour un petit peu cruel sur mes enfants, bon, je ne considère pas du tout que ce soit cruel, ils disent tout le temps, je me mets à la place des parents d'enfants handicapés. Alors j'ai envie de leur dire, écoutez, restez s'il vous plaît à votre place et laissez-nous à la nôtre. Et n'essayez pas de régler nos problèmes, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Alors n'essayez pas de dire... à la place de... C'est la phrase la plus sotte du monde. Ça précède toujours des conneries énormes. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « Je me mets à la place de », vous lui dites « Stop, arrête. Tu vas dire des conneries. » On ne se met jamais à la place de personne. Surtout cette place d'avoir des gosses handicapés. On ne sait pas du tout ce que c'est. Alors que ceux qui ont des enfants normaux nous laissent tranquilles. Ne s'occupent pas de se mettre à notre place. Nous sommes à la nôtre. Qui reste à la leur.
Alors, vous détestez le mot handicapé et vous lui préférez l'expression pas comme les autres.
J'aime pas
pourquoi
beaucoup le mot handicapé, moi j'ai jamais très bien compris. C'est une racine anglaise, c'est un main dans le chapeau. Et j'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire.
Littéralement, ça voudrait dire handicap.
Non, moi j'aime bien le mot, j'aime pas le mot anormal, parce qu'anormal, jusqu'à nouvel ordre, qu'est-ce que c'est la norme. J'aime bien pas comme les autres. Pas comme les autres, c'est presque une qualité. Oui, différent ou pas comme les autres. Ça, j'aime bien ça parce que moi, j'ai toujours, chaque fois que je fais quelque chose, quand je fais des films, quand je fais des livres, j'espère toujours faire des livres pas comme les autres. Parce que si c'est comme les autres, ça n'a pas d'intérêt. Je les imite. Je fais comme tout le monde. Moi, j'aime. Et puis, il y a des autres à qui je n'ai pas trop envie de ressembler. Surtout, j'aime pas tous les autres. Et je trouve que pas comme les autres, c'est pas mal parce que ils ne sont pas comme les autres, alors ça laisse le bénéfice du doute. Ils ne sont pas forcément moins bien que les autres, ils peuvent être mieux que les autres. C'est ce que je dis dans mon livre, Mozart n'était pas non plus comme les autres, Einstein non plus. Donc ne pas être comme les autres, ça peut être par en dessous ou par en dessous. Eux, ce n'est pas exactement par en dessous, hélas.
Alors, on va peut-être... est-ce que vous liriez un passage?
Avec plaisir, j'aime bien.
Alors, je vais vous laisser choisir le passage que vous voulez lire à ce moment-là. Oui.
Ah, je vais vous en lire un bout de texte. Il y en a que j'aime bien. Ah oui, d'accord. Oui. Attendez, je vais vous lire un bout. Oh si, je vais lire ça. Ça, c'est pas un bout de texte, mais... Je trouve que c'est peut-être rigolo. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais parlé de mes deux garçons. Pourquoi ? J'avais honte, peur qu'on plaigne. Tout ça un peu mélangé. Je crois surtout que c'était pour échapper à la terrible question. Qu'est-ce qu'ils font ? J'aurais pu inventer. Thomas est aux États-Unis, au Massachusetts Institute of Technology. Il prépare un diplôme sur les accélérateurs de particules. Il est content, ça marche bien. Il a rencontré une jeune américaine, elle s'appelle Marilyn, elle est belle comme un cœur, il va certainement s'installer là-bas. C'était pas trop dur pour vous l'éloignement ? L'Amérique, c'est pas le bout du monde, et puis l'important, c'est qu'il soit heureux. On a souvent des nouvelles, il téléphone toutes les semaines à sa mère. En revanche, Mathieu qui fait un stage, c'est un architecte à Sydney, ne donne plus de nouvelles. J'aurais pu dire la vérité aussi. Vous voulez vraiment savoir ce qu'ils font ? Mathieu ne fait plus rien, il n'est plus là. Vous ne le saviez pas, ne vous excusez pas. La disparition d'un enfant handicapé, ça passe souvent inaperçu, on parle de soulagement. Thomas est toujours là, il traîne dans les couloirs de son centre médico-pédagogique, en serrant une vieille poupée mâchouillée, il parle à sa main en poussant des cris étranges. Pourtant il est grand maintenant, ça lui fait quel âge ? Non, il n'est pas grand. Vieux peut-être, mais pas grand. Il ne sera jamais grand, on ne devient jamais grand quand on a de la paille dans la tête. Oui, c'est pas une gaieté farouche celui-là. Mais c'est vrai aussi que c'est une façon de là quand je parle du MIT et tout ça, j'ai tellement d'amis dont les enfants sont tous comme par hasard au MIT ou en train de préparer des diplômes absolument exceptionnels que ça m'agace d'entendre les hauts faits d'armes de tous ces enfants normaux et surdoués. Ils sont tous très beaux, ils ont rencontré des jeunes filles absolument sublimes, ils vont avoir des enfants exceptionnels. Tout. Et ça, par moments, c'est pas bien de ma part, mais ça m'agace. D'entendre cet étalage de bonheur, ça me fait penser à celui qui a une super voiture de course et qui parle des performances de sa voiture à celui qui n'a qu'une vieille de chevaux Citroën. Je trouve qu'il y a un manque de dignité.
Alors, vous abordez aussi quand même la vie quotidienne et la vie très douloureuse hein, de vos deux enfants, notamment il y a tout un chapitre sur les corsets parce qu'à un moment donné, leur ossature est tellement malmenée
les pauvres vieux,
par la santé
ouais,
que il y a...
Des petits os fragiles.
Oui, ils ont quand même une grande souffrance hein, aussi qu'ils sont amenés à vivre et dont vous faites des reproches.
C'est sûr que leur vie n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que physiquement, ils ont des vrais problèmes. En même temps, j'espère qu'ils auront quand même eu des bonheurs dans cette vie, mais c'est très difficile. Encore une fois, on ne peut pas se mettre à leur place et dire cette vie-là ne vaut pas la peine d'être vécue parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Ce sont des grands mystères, ces enfants-là, et on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et peut-être que leur bonheur est fabriqué avec des émotions, avec des sensations, avec des choses que nous ignorons un peu. Ils n'ont pas des grandes joies intellectuelles, ils n'écoutent pas Jean-Sébastien Bach et ils ne vont pas dans les musées, mais enfin... Peut-être qu'il y a des choses qui, à nous, nous échappent et qui leur rendent la vie possible et supportable. Donc, là, encore une fois, on ne peut pas dire que cette vie ne vaut pas le coup d'être vécue parce qu'on n'en sait rien du tout. En tout cas, il y a une chose qui est très importante et moi, auquel je pense beaucoup, c'est que hier soir, justement, j'ai voulu dire ça. J'étais au Lido là, pour recevoir mon truc. Là, et puis, j'étais, avant qu'on nous donne nos prix, il y a eu un grand spectacle de superbes danseuses du Lido. En paillettes, qui sont venus danser. Et puis après, moi, je suis venu parler de mes gosses handicapés. Alors, j'ai trouvé que c'était complètement insolite. J'étais quand même... S'il y a deux mondes qui sont vraiment opposés, c'est le Lido et le monde des enfants handicapés. Parce que le Lido, c'est la beauté, la réussite, le luxe. Les danseuses ne sont pas vraiment handicapées. Que vous les verriez danser, c'est pas vraiment des handicapés, hein. Et alors, je me disais, c'est vraiment ces deux univers. Il y a deux mondes. L'humanité est quand même étrange. J'étais dans ce Lido, puis j'allais parler de mes gosses handicapés. Il y avait encore les danseuses qui étaient là, dans la coulisse. Et ça m'a fait... j'ai pensé que ces deux humanités-là, qui sont vraiment à l'opposé, elles avaient l'une et l'autre besoin l'une de l'autre. C'est-à-dire que tous ces gens réussis, tous ces gens très bien, ils ont peut-être besoin aussi de tous ces... laissés pour compte de la société, qui peuvent leur amener des choses complètement étonnantes. Peut-être un sens de l'inutile, un sens du rêve, un sens de... Nous, on est devenus des outils performants. On est obligés d'être performants. Il faut qu'on ait des résultats. Il faut qu'on fasse des choses. Et ça, c'est... Tandis qu'ils se promènent dans la vie avec une espèce d'inutilité complètement... assumer, c'est peut-être utile pour nous qui croyons être utiles de voir comme ça des rêveurs. Bon, bien sûr, ils ont besoin de nous parce que pratiquement ils n'arrivent pas à se venir, mais nous on a certainement besoin d'eux. Ouais, je crois que si on arrivait à être convaincu de ça, peut-être qu'on changerait énormément cette histoire de regard étrange sur les handicapés qui sont plutôt des charges pour la société. Moi, je ne suis pas aussi convaincu que ça qu'ils soient des chats. Ils sont certainement indispensables. L'humanité doit être une mosaïque de choses énormément différentes et qu'un monde de gens tout semblables serait très, très angoissant. Et c'est peut-être bien qu'ils soient là. Moi, je fais souvent une allégorie. Je pense à... J'ai des arbres, des pommiers, par exemple, et je vois l'été. Je sais pas, les pommes, ça arrive en automne plutôt, hein. Oui, et alors je vois le pommier est rempli de très belles pommes, elles sont rouges ou vertes, mais très brillantes, un peu arrogantes d'ailleurs, très fières. Et puis il y a toujours, au milieu dans l'arbre, il y a toujours 4-5 petites pommes qui n'ont pas poussé comme les autres. Alors elles sont toutes noires, elles sont tordues, elles sont moches. Et puis je pense que c'est ça l'humanité. Et je pense que cet arbre, les 5 petites pommes noires, elles lui amènent un certain charme. Et qu'il serait moins beau s'il n'avait que ses belles pommes un peu arrogantes et fières, que les petites pommes noires, là. Et puis d'ailleurs, personne n'a jamais eu eu la curiosité d'en manger une de ces petites pommes. Elles sont peut-être meilleures que les belles pommes brillantes là, qui ont l'air en plastique. Alors, c'est ça l'humanité finalement. C'est que c'est bien qu'il y ait des petites pommes un peu foutues au milieu des belles. Ça permet de s'apprécier mutuellement. Tout ça, c'est un petit peu de la poésie, mais c'est important la poésie dans la vie.
Vous voulez bien nous lire un autre passage ?
Bien sûr.
Peut-être le passage. Mais... qui donne son titre au livre, on voit papa, et qui est au début, ou la promenade avec vos deux garçons, au cours de laquelle, voilà, l'un d'entre eux répète sans cesse, où on va papa, où on va papa.
Le titre vient donc de... C'est une phrase de mon fils, qui est citée... C'est la seule phrase qui sache construire, c'est « Où on va papa ?» avec quand même un complément de lieu, un pronom personnel, un verbe. Et il répète ça tout le temps. Enfin, il répétait ça maintenant. Maintenant, il s'en fout un petit peu de où on va. Il n'a plus envie d'aller nulle part, je crois. Et quand il était derrière en voiture, chaque fois, c'était « Où on va, papa ?» Alors au début, on dit « On va chercher du lait. » Et puis, on a le droit, 30 secondes après, « Où on va, papa ?» Au bout de la 50e fois, on est obligé de dire... ce que vous allez entendre. Depuis qu'il est monté dans la Camaro, Camaro c'est une très belle voiture américaine que j'avais à l'époque. Depuis qu'il est monté dans la Camaro, Thomas, 10 ans, répète comme il le fait toujours, où on va, papa? Au début, je réponds, on va à la maison. Une minute après, avec la même candeur, il repose la même question. Il n'imprime pas. Au 10e, où on va, papa, je ne réponds plus. Je ne sais plus très bien où on va, mon pauvre Thomas. On va à volo. On va droit dans le mur. Un enfant handicapé, puis deux, pourquoi pas trois. Je ne m'attendais pas à ça. Où on va, papa? On va prendre l'autoroute à contresens. On va en Alaska. On va caresser les ours. On se fera dévorer. On va aux champignons. On va cueillir des amanites phalloïdes et on fera une bonne omelette. On va à la piscine, on va plonger depuis le grand plongeoir dans le bassin où il n'y a pas d'eau. On va aller à la mer, on va au Mont-Saint-Michel, on ira se promener dans les sables mouvants, on va s'enliser, on ira en enfer. Imperturbable, Thomas continue. Où on va, papa? Peut-être qu'il va améliorer son record. Au bout de la 100e fois, ça devient vraiment irrésistible. Avec lui, on ne s'ennuie pas. Thomas est le roi du running gag. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a, il y a de quoi rire de tout à la limite. C'est vrai qu'au début, c'est à la 10e fois, tout ça, mais tout d'un coup, ça devient grandiose quand on est 99, 100, tout ça. Puis alors, il sent à ce moment-là qu'il nous fait rire. Alors je pense qu'il rajoute un petit peu quelque chose. Il y avait un texte, je voulais vous lire, mais je ne le trouve plus, peut-être qu'on me l'a retiré. Pourtant, il était dedans.
Doit toujours
c'est bien
être dedans.
La même version.
Oui, je crois qu'il y est.
C'est le meilleur.
Bien,
alors, ouais. Écoutez, excusez-moi.
Il y a aussi un très, très beau texte que j'ai particulièrement apprécié.
C'est lequel? Ah bah,
c'est celui. Enfin, c'est une des dernières visites que vous faites récemment à votre fils.
Oui.
Et ça décrit l'Institut
médico-pédagogique
comme un lieu pas triste, étrange et parfois beau.
Ah oui, d'accord.
C'est page
147. C'est pas mal, c'est vrai. C'est combien?
Page 147. 147, 148.
Ah oui, c'est bien aussi. Il y a tellement de beaux textes dedans, vous voyez que c'est difficile. Voilà. Il y avait longtemps que je n'étais pas allé voir Thomas. Je suis allé le voir hier. Il est de plus en plus souvent dans un fauteuil roulant. Il se déplace difficilement. Il m'a reconnu au bout d'un moment. Il a demandé où on va, papa. Il est de plus en plus voûté. Il a voulu aller se promener dehors. Notre conversation est sommaire et répétitive. Il parle moins qu'avant. Il parle toujours à sa main. Il nous a emmenés dans sa chambre. Elle est claire et peinte en jaune. Snoopy est toujours sur le lit. Sur le mur, il y a une œuvre abstraite de ses débuts. Sorte d'araignée emmêlée dans sa toile. Il a changé de pavillon. Il est dans une petite unité de 12 pensionnaires, des adultes qui ressemblent à des vieux enfants. Ils n'ont pas d'âge, ils sont indatables, ils ont dû naître un 30 février. Le plus âgé fume la pipe et tire la langue aux éducateurs. Il y a un aveugle qui se promène dans les couloirs en suivant à tâtons les murs. Certains nous disent bonjour, la majorité nous ignore. Quelquefois on entend un cri, puis le silence, seul le bruit des pantoufles de l'aveugle. On doit enjamber quelques pensionnaires allongés par terre au milieu de la pièce, les yeux au ciel, ils rêvent, parfois ils rient aux anges. Ce n'est pas triste, c'est étrange, parfois beau. Les gestes lents de certains qui brassent l'air s'apparentent à une chorégraphie, à des mouvements de danse moderne ou de théâtre kabuki. Un autre qui fait avec ses bras des contorsions devant son visage fait penser aux autoportraits des Gonchil. À une table sont assis deux malvoyants qui se caressent les mains. À une autre, un pensionnaire, le crâne dégarni, les cheveux gris. On l'imaginerait en costume trois pièces, gris. Il a l'air d'un notaire, sauf qu'il a un bavoir et répète sans arrêt « caca, caca, caca ». Tout est permis, toutes les excentricités, toutes les folies. On n'est pas jugé. Ici, quand on est sérieux et qu'on se comporte normalement, on est presque gêné. On a le sentiment de ne pas être comme les autres et d'être un peu ridicule. Quand je vais là-bas, j'ai envie de faire comme eux des bêtises. C'est vrai, c'est l'impression qu'on a quand on est dans ces maisons-là. C'est que finalement, le monde a basculé. C'est-à-dire qu'habituellement, on voit un handicapé devant tous les gens normaux qui regardent l'handicapé. Et là, tout d'un coup, c'est plein d'handicapés qui regardent un mec normal. Et c'est le mec normal qui se dit, mais c'est peut-être moi qui ne suis pas comme eux. D'ailleurs, on n'est pas comme eux. Et c'est quand même une sensation étrange parce que c'est vrai, c'est quoi être normal? C'est très fragile, hein, la frontière entre le... Qu'est-ce que c'est normal? C'est pour ça que ce genre de gosse, tout ça, ça vous amène à des interrogations tout à fait étonnantes, quand même. Ça vous... C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique l'intérêt de ce livre, c'est que le problème du handicap est un problème sur la profonde nature humaine, quand même, finalement. Bon, nous, on a décidé de mettre des normes en disant les normaux sont comme ça, puis les anormaux, mais bon, les choses sont peut-être pas aussi nettes que ça, hein. Sûr. Où il est mon beau texte, hein, que je voulais lire.
On va vous laisser trouver
qui ne diront jamais. Mais si, vous souvenez,
je vais essayer de vous le retrouver.
Vous l'aviez mis
Oui, je crois qu'il y est. Si, si, oh là là, j'en ai choisi plusieurs. Mais oui, c'est un des plus beaux. Alors.
Ah oui, il est vraiment beau. C'est presque de la poésie. Chaque fois, je le cherche et je le trouve jamais. Il est là? C'est 70, je crois. Ils ne diront pas, vous savez? Ils ne conjugueront jamais le verbe. Hein, c'est celui-là? Vous voyez, vous ne trouvez pas non plus. C'est vers 70, non? C'est terrifiant. Hein.
Ce que je propose aussi, je vais retrouver ce texte, Jean-Louis Fournier vous le lira, mais si vous avez des questions, on peut démarrer, les questions donc, du public, hein, voilà. Pendant ce temps-là, je cherche le texte. 72.
Oui, mais ça, je vous arrête tout de suite, j'ai promis à ma fille de ne pas parler d'elle. Elle m'a demandé de ne pas la mêler à ça. Et vous ne saurez pas, madame. Alors, vous pouvez vous rêver, vous imaginer tout ce possible. Elle est reine dans un pays en Chine. Oui.
Non. Il y a une première partie que j'aimais beaucoup. Enfin, il y en a d'autres. Hein. C'était quand vous faites appel à cette femme qui met des enfants au monde. Attention, attention. C'est vrai que parce que nous, on a un fils qui est handicapé, etc. Donc, très souvent, quand je vois une femme enceinte, il faut lui dire attention, quoi. Il faut lui dire qu'elle arrête. Et j'ai beaucoup aimé quand vous l'avez exprimé.
Ah, mais ça...
Et il y a autre chose aussi. Vous parlez souvent de normal avec notre fils. Le mot normal, il est banni de la maison. Et il n'y a pas très très longtemps, maintenant, j'avoue que maintenant, en plus d'un handicap physique, il est en hôpital psychiatrique, donc les choses se sont aggravées sur un autre domaine. Et quand il est sorti de l'hôpital, il m'a parlé de nous en disant, mais nous on est les normopathes. Et j'ai trouvé ça assez bien, en fait.
Ah, c'est marrant, ça.
Voilà. Donc merci beaucoup pour ce livre qui nous aide aussi à parler avec les autres, parce que souvent on se sent un peu coupable, un peu mal à l'aise.
Non, puis,
et ça nous a aidé vraiment.
On se sent un petit peu dans un ghetto tout d'un coup.
Oui,
on a l'impression que c'est un ghetto. Alors on est contre parents d'enfants handicapés parlant de ça. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage, parce qu'il n'y a pas que ça aussi dans la vie. Il y a d'autres choses. passionnante, il ne pourra pas passer.
Il y a aussi souvent un problème de une responsabilité qu'on a par rapport à tout ça, et les autres sont des juges, forcément sont des juges. Donc ça fait du bien si on peut offrir ce livre et le partager pour que les autres comprennent que bon...
Écoutez, apparemment, il circule beaucoup dans les milieux associations. Et puis il y a autre chose aussi, que je pense pas vous l'avoir dit, c'est qu'il y a une chose, moi, que j'ai en horreur, c'est la compassion. J'ai pas du tout écrit ce livre pour qu'on me dise mon pauvre monsieur Fournier. J'ai horreur d'ailleurs qu'on s'approche de moi et qu'on pose une grosse main moite sur mon... Elles sont toujours moites, les mains des gens qui compatissent. Et puis il me prend comme ça, il me regarde avec un beau regard, mon pauvre vieux. Alors je lui dis, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas vieux d'abord, et puis occupez-vous, je ne veux pas qu'on me plaigne. Je trouve que la compassion est un truc quand même qui infériorise un petit peu. C'est quelqu'un qui est en haut de son bonheur, puis qui regarde celui qui est en bas dans son malheur. Moi j'aime pas trop, d'ailleurs compassion, condescendance, tout ça, j'aime pas trop. Moi je préfère carrément les gens qui sont naturels, qui sont capables de se moquer d'un gosse handicapé qui fait des bêtises, je trouve ça excessivement sain. Moi j'ai un ami qui s'appelle Stéphane Guyon, que vous devez connaître, peut-être qu'il est un humoriste d'une violence hallucinante. Il transforme les mots en grenades, mais c'est un type qui a énormément bon cœur et qui humainement est un type très bien. Et il m'a dit une chose très intelligente, je trouve. Il m'a dit, quand on m'interdit, par exemple, de rire de certaines catégories professionnelles, de certaines catégories d'individus, par exemple, dire, par exemple, pas le droit de rire des homosexuels, pas droit de rire handicapé, il a dit, j'ai l'impression qu'on fait de la ségrégation. Et il a vachement raison. C'est-à-dire, faut donner à tout le monde le droit, on a le droit de se moquer de tout le monde, et il n'y a pas de cela dont il ne faut pas s'en moquer, parce que si on ne veut pas s'en moquer, c'est que on pense qu'il... C'est pas droit à la moquerie à tout le monde, et je trouve ça excessivement sain, moi, qu'on se moque de tout le monde. C'est ça, l'égalité. Et puis, encore une fois, se moquer, c'est pas forcément être méchant. Se moquer, c'est un chemin souterrain, quelquefois étrange, pour dire des choses et ne pas s'attendrir. Moi, j'ai toujours en mémoire une couverture de Charlie Hebdo, de Rezer. Il y a quelques années, dans la banlieue parisienne, des Noirs qui étaient logés dans une espèce de hangar pourri, un de leurs potes d'ailleurs, leur louait à des sommes hallucinantes, surtout qu'avec un poil dedans qui marchait très mal et qui les a asphyxiés. Et il y a eu 7 ou 8 morts. Et la semaine, quand Charlie Hebdo est sorti, c'était Rezer, qui était un dessinateur de génie, avait fait cette première en mettant les Noirs, non seulement ils nous piquent notre boulot, ils nous piquent nos femmes, et maintenant ils nous piquent notre oxyde de carbone. Et alors, il y a évidemment quelques bonnes âmes avec des QI limites qui ont dit c'est quand même horrible de se moquer de ces gens-là. Ils ne se moquaient pas de ces gens-là. C'était une façon d'exprimer sa tristesse en riant. C'est ça qui est compliqué. Faut faire très attention. Les gens qui se moquent, quelquefois, c'est une espèce de baroud d'honneur parce que ils ont trop de sensibilité, puis ils se méfient de leur sensibilité. Les gens qui n'ont pas de sensibilité ne s'en méfient pas. C'est ceux qui en ont beaucoup qui se méfient de leur sensibilité, puis qui donnent quelquefois l'impression d'être méchants. Et donc, vous avez trouvé le beau texte? Alors, si vous ne trouvez pas beau, alors ça, c'est... Je serais vraiment triste. Mais non, c'est pas celui-là. Mais ça fait rien, je vais vous lire celui-là. Oui, il est très poétique aussi, mais... Il est très poétique aussi. Ah voilà, oui, c'est bien. Mais c'est pas celui-là. Si vous étiez... Alors là, je leur parle. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais conduit au musée. On aurait regardé ensemble les tableaux de Rembrandt, Monet, Turner et encore Rembrandt. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais offert des disques de musique classique. On aurait écouté ensemble d'abord Mozart, puis Beethoven, puis Bach, et encore Mozart. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais offert plein de livres de Prévert, Marcel Aimé, Queneau, Ionesco, et encore Prévert. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais emmené au cinéma, on aurait vu ensemble les vieux films de Chaplin, Eisenstein, Hitchcock, Buñuel et encore Chaplin. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais emmené dans les grands restaurants, je vous aurais fait boire du Chambol Musigny et encore du Chambol Musigny. Si vous étiez comme les autres, on aurait fait ensemble des matchs de tennis, de basket et de volley-ball. Si vous étiez comme les autres, on serait monté ensemble dans les clochers des cathédrales gothiques pour avoir un point de vue d'oiseau. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais offert des fringues à la mode pour que vous soyez les plus beaux. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais conduit au bal avec vos fiancés dans ma vieille voiture décapotable. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais donné en douce des petits bifetons pour faire des cadeaux à vos fiancés. Si vous étiez comme les autres, on aurait fait une grande fête pour votre mariage. Si vous étiez comme les autres, j'aurais eu des petits-enfants. Si vous étiez comme les autres, j'aurais peut-être eu moins peur de l'avenir. Mais si vous avez été comme les autres, vous auriez été comme tout le monde. Peut-être que vous n'aurez rien foutu en classe. Vous seriez devenu délinquant. Vous auriez bricolé le pot d'échappement de votre scooter pour faire plus de bruit. Vous auriez été chômeur. Vous auriez aimé Jean-Michel Jarre. Vous vous seriez marié avec une conne. Vous auriez divorcé et peut-être que vous auriez eu des enfants handicapés. On l'a échappé belle. Vous voyez, j'ai à la fin essayé de retourner la situation. Vous avez ri quand vous avez entendu Jean-Michel Jarre, donc vous n'êtes pas des amateurs de Jean-Michel Jarre. Bravo! Alors c'est un bon point pour vous. Parce que aimer Jean-Michel Jarre, c'est pas bien.
On va continuer les questions.
Vous préférez Mozart.
Question au public.
Oui, bonsoir monsieur. Est-ce que vous pourriez nous parler des relations qu'ils avaient entre eux, vos deux enfants? Est-ce qu'ils s'amusaient ensemble? Est-ce qu'ils s'aimaient? Ou est-ce qu'ils étaient agressifs ensemble?
Ils étaient, j'ai envie de vous dire, comme deux chats. Ils se griffaient, ils se tiraient les cheveux, Puis par moments, il y avait des petits gestes de tendresse. Quand Mathieu a disparu, on a eu peur que Thomas soit marqué par ça. Ça n'a pas duré très longtemps. Il a ouvert quelques tiroirs pour voir si son frère n'était pas dedans. Et puis, ça va. Vous savez, ils ont vraiment un esprit, les idées sont plus volatiles que dans les nôtres. D'ailleurs, ils ont de la paille dans la tête. Alors la paille, ça retient peut-être pas beaucoup les souvenirs. Et donc non, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas fait de drame. Il est parti... Vous ne pouvez pas retrouver mon beau texte?
Je vais le rechercher.
Pendant que d'autres questions vont
vous être posées. Il y a plein d'autres questions, Jean-Louis Fournier. Voilà. Je vais vous le retrouver, le texte.
C'était « Vous ne conjuguerez jamais le verbe à la fin ». Ça se conclut comme ça, vous ne conjuguerez jamais le verbe de machin. C'est vers les 70, je crois.
Permettez, pour vous permettre de retrouver votre fameux texte, la façon dont vous avez lu les textes nous a montré l'étendue de votre talent, et puis la poésie, et en même temps la traduction du désespoir par des images, une accumulation d'images qui était assez, assez exceptionnelle. Et ça nous a rassuré, le prix ne vous a pas été remis par les danseuses du Lido, mais par un autre jury féminin, parce que je pense que elles étaient plus qualifiées pour saluer...
Vous savez, j'étais fier que ce soit les dames du féminin. Cela dit, que si les danseuses du Lido m'avaient donné un prix, j'aurais été très content aussi. Parce que c'est vrai qu'elles sont très très belles, danseuses du Lido. J'ai pu les voir de près. Ce sont des chefs-d'œuvre de la nature.
Ça aurait été en nature, je m'excuse.
Ce sont des chefs-d'œuvre de la nature, ces filles. Par ailleurs, elles sont toutes grandes, très belles.
Pour Stéphane Guillon, je pourrais dire que je ne partage pas votre enthousiasme parce qu'il a... un courage qui est à géométrie variable, hein, parce que au niveau des religions, je l'ai entendu être très très caustique vis-à-vis de certaines religions et beaucoup plus prudent vis-à-vis d'autres. Il lui-même le reconnaissait. Du reste, je me permets.
Nobody's perfect.
Et enfin, une dernière chose, vous avez parlé de l'utilité d'une personne.
Ah.
Est-ce que là, je vais être un petit peu plus dérangeant, peut-être. Est-ce que vous ne pensez pas avoir été utile à certains, dits normaux entre guillemets? Que vous rassurez quelque part parce qu'il y a une sorte de distanciation qui se produit, on se dit.
Attendez.
C'est un peu.
Je reformule. Parce que c'est important ce que vous me dites.
Vous avez parlé d'utilité à un moment.
J'ai dit que.
Ce mot m'a frappé.
Je pense que, si vous voulez, cette population de marginaux, de gens pas comme les autres, peuvent donner à notre humanité, nous, des pseudo-normaux. Une humanité plus chaleureuse, plus... Amener quelque chose, d'être un peu utile, oui.
Et en même temps rassurer ceux qui se croient normaux, justement, parce qu'ils se disent, j'ai échappé peut-être à cela.
Il y a ça aussi.
C'est un peu dur, ce genre de réflexion est un peu dur, mais enfin, je pense qu'elle correspond à une psychologie assez, assez répandue. On aime bien être rassuré par quelqu'un qui a un malheur éventuellement, parce qu'on se dit, tiens, moi, j'ai échappé à ça.
Et bien sûr.
Bon, les philosophes l'ont déjà analysé, c'est pas original, mais enfin, en l'occurrence, je pense que c'est...
Mais si vous voulez, quand je pense à l'utilité des enfants handicapés, c'est pas du tout pour les gens normaux qui puissent se dire « Ah, quel bol on a, nous !» C'est parce que, justement, ils sont les petites pommes noires dans l'arbre avec les grosses pommes. Ils font des petites taches qui sont agréables à voir. Et puis, peut-être que, si vous voulez, quand les forts ont un faible à côté d'eux, tout d'un coup, ils développent une espèce de sensibilité qu'ils n'auraient pas s'ils étaient contre forts. Si on n'a jamais que des forts qu'on ne peut pas aider, on ne va jamais s'habituer à aider les autres. Peut-être que c'est les petits mioches comme ça, cabossés, tout ça, développent chez les brutes un petit sentiment. Vous avez trouvé ? Oui. Mes petits oiseaux, je suis bien triste de penser que vous ne connaîtrez pas ce qui pour moi a fait les plus grands moments de ma vie. Ces moments extraordinaires où le monde se réduit à une seule personne, qu'on n'existe que pour elle et par elle, qu'on tremble quand on entend ses pas, qu'on entend sa voix et qu'on défaille quand on la voit. Qu'on a peur de la casser à force de la serrer, qu'on s'embrasse quand on l'embrasse et que le monde autour de nous devient flou. Vous ne connaîtrez jamais ce délicieux frisson qui vous parcourt des pieds à la tête, fait en vous un grand chambardement, pire qu'un déménagement, une électrocution ou une exécution. Vous chamboule, vous tourneboule et vous entraîne dans un tourbillon qui fait perdre la boule et donne la chair de poule. Vous remue tout l'intérieur, vous donne chaud à la gueule, vous fait rugir, vous hérisse le poil, vous fait bégayer, vous fait dire n'importe quoi, vous fait rire et aussi pleurer. Parce que, hélas, mes petits oiseaux, vous ne serez jamais conjugués à la première personne du singulier et un indicatif du présent, le verbe du premier groupe, aimer. Oui, j'aimais bien ce texte-là parce que, bon, je sais pas s'il est bien. Oui, alors, vous voyez, ce bouquin, il est fait de tout parce que il y a en même temps des choses gaies, des choses qui ne sont pas, j'ai envie de dire, comme la vie, hein, que votre vie à tous, elle n'est pas entièrement marrante, elle n'est pas entièrement épouvantable, elle est. Et si vous voulez, le message de que si tant est, moi je n'ai pas envie de donner le message, mais si on peut sortir de ça, c'est de dire que la vie c'est malgré tout formidable quand même, malgré tout. Il n'y a pas de quoi rire, alors rions. C'est une philosophie qui ne va pas bien loin, mais enfin, qui peut peut-être nous aider à vivre, parce que je trouve que la vie, c'est un truc vachement difficile. Mais même en dehors du fait des gosses handicapés, hein, parce qu'il n'y a pas que ce malheur-là, il y en a plein d'autres de malheurs. Hein. Et moi, je suis très... Là, on m'a invité à un colloque littéraire, et c'est sur la passion. Alors la passion de tout, c'est la passion de la musique, la passion. Et alors, moi je vais faire un truc sur la passion des gens. Moi j'ai la passion des gens, parce que je suis frappé par le courage des gens. Je trouve que les gens sont excessivement courageux, parce que c'est vachement difficile la vie. Puis vous avez vu comment ça se termine. Pas bien non plus. On vieillit, on va crever, on va perdre nos... Mais pourquoi vous faites des grimaces ? C'est vrai ! Eh bien oui, il faut regarder en face, ça. On va perdre nos amis, tout ce qu'on aime bien, on va devenir de plus en plus moche, nos maisons vont se lézarder, tout s'abîme, tout... Et puis malgré tout, les gens rigolent. C'est formidable, ça. Moi, je vois, avant, j'habitais la banlieue, et je prenais le train de banlieue, pas tous les jours, mais quelquefois avec des gens qui eux le prenaient tous les jours. Et c'était toutes ces filles qui allaient travailler dans les bureaux à Paris. Et puis souvent, comme elles étaient pressées, parce qu'elles se maquillaient dans le train, c'était très émouvant de les voir se maquiller, parce que je trouve que c'était une espèce de... Elles se décoraient pour pour nous tous, parce que finalement, quelqu'un qui se maquille, c'est pas seulement pour lui, parce qu'il se regarde pendant un gaz tout le temps, mais c'est pour les autres. Elle faisait un décor d'elle-même pour nous tous. Et puis je me dis, ces pauvres filles, elles vont être toute la journée avec un espèce de connard, de sous-chef de bureau qui vont les emmerder, elles vont faire un boulot épouvantable. Et elles rigolaient pour presque rien, payer en plus des boulots pas marrants. Et elles, je disais, l'humanité est formidable. Les gens sont vraiment d'un courage formidable. Et ça me donnait, vraiment, j'étais confiant dans l'humanité. Et je suis d'autant plus confiant dans l'humanité que l'humanité actuellement achète mon livre et que moi, les gens qui achètent mon livre, je les adore.
Je leur donne
toutes les... Ils m'écrivent. Je leur donne toutes les qualités. La dernière fois, j'étais à une fête du livre et j'étais à côté d'un écrivain dont je tairai le nom pour ne pas lui faire de la peine. Et alors, on avait chacun des fils. Elle fait un peu des romans d'amour moyen. Et alors, on avait chacun notre fil de fans, d'acheteurs. Et j'ai regardé ses lecteurs et j'ai regardé les miens. Et je vous assure que les miens étaient 100 fois mieux. Et je le lui ai dit. Et c'est vrai, c'est sans le dire, les miens étaient mieux. Donc, si vous achetez mes bouquins et que vous les aimez, voilà, vous êtes les mieux du monde.
Oui, vous êtes...
Comment ? La sérénité, mais je ne l'ai pas. Mais je la cherche. Toujours. Je fais semblant. Comme tout le monde. J'aspire à... Écoutez... Vous lirez dans Psychologie la semaine prochaine, on m'a interviewé sur la sérénité. Et alors, j'ai dit à la fille, me demander ce que c'est que la sérénité, c'est demander quel est le goût du caviar à un smicard. C'est pareil. D'ailleurs, elle l'a mis, je crois, dans son truc. Alors, je vous dis, la sérénité, non, je ne connais pas, et pourtant, je n'aspire qu'à ça. Je serais prêt à échanger mon immense fortune, parce que vous imaginez qu'avec des livres comme ça, on gagne des sous, mais à ne plus savoir qu'en faire. J'échange mon immense fortune, mes propriétés, mes chevaux, tout, contre la sérénité. Être bien sans avoir plus besoin de rien. Écoutez, moi, justement, on m'a fait parler de la sérénité, je ne sais pas très bien ce que c'est. Alors, bon, j'ai essayé d'imaginer ce que c'est. Je pense que c'est d'être bien et de n'avoir plus besoin de rien. Être bien, moi, je passe ma vie à attendre des choses, toujours. Chaque fois qu'un téléphone sonne, je pense qu'on m'apprend une nouvelle formidable ou une catastrophe. Chaque fois que j'entends un courrier, que j'attends toujours, je regarde l'horizon comme dans le désert des Tartares. J'attends que les Tartares arrivent. Et je crois que la sérénité, c'est d'être bien là où on est. Et puis de dire que c'est formidable de savoir déguster la vie sans avoir sa main comme ça pour regarder l'horizon en disant ce que j'aimerais bien aller là-bas. Moi, je passe mon temps à vouloir aller là-bas, aller ailleurs. Et donc, quand vous parlez de sérénité, ma pauvre amie, mais alors, je peux pas vous parler de la sérénité. Je ne cherche que ça. Je vous ferai visiter l'intérieur de ma tête. Vous seriez effrayé de ce que vous verriez dedans. C'est un grenier, un capharnaüm épouvantable. Il y a de tout. C'est vraiment... Non.
On va peut-être prendre une dernière question, voilà. Monsieur Fournier, avant que vous fassiez vos devoirs vacances pour en vendre encore plus et pour être encore plus content.
Non, mais ça va, je suis assez riche maintenant.
Une dernière question.
Bonsoir, c'est Soran qui n'est pas si riche, peut-être, c'est ça.
Oh, voilà.
C'est vrai. Dites la vérité. Hein.
C'est juste.
Dites la vérité, c'est ça.
Bonsoir. Juste parce que c'est un passage que j'ai beaucoup aimé, je me demandais si vous aviez fini par découvrir de quoi vos enfants rêvaient.
Ah, ça c'était. Ah ben, vous avez raison, j'aime bien ce texte-là. Mais je vais vous le lire, tiens, pour la fin. Et non. Vous savez où il est ? Non ?
Oui, mais.
Vous l'avez marqué, non ?
Je ne sais pas, je vais voir.
Ah oui, ça j'aime bien. Ben, c'est bien que vous remarquiez ça. Moi je l'aime bien celui-là aussi. Ah oui, j'aime bien ce truc-là. C'est vrai que c'est... Mathieu et Thomas dorment, je les regarde. À quoi rêvent-ils ? Font-ils des rêves comme les autres ? Peut-être que la nuit, ils rêvent qu'ils sont intelligents. Peut-être que la nuit, ils prennent leur revanche, qu'ils font des rêves de surdoués. Peut-être que la nuit, ils sont polytechniciens, savants, chercheurs, et qu'ils trouvent. Peut-être que la nuit, ils découvrent des lois, des principes, des postulats, des théorèmes. Peut-être que la nuit, ils font des calculs savants qui n'en finissent pas. Peut-être que la nuit, ils parlent le grec et le latin. Mais dès que le jour se lève, pour que personne ne se doute et pour avoir la paix, ils reprennent l'apparence d'enfants handicapés. Pour qu'on les laisse tranquilles, ils font semblant de ne pas savoir parler. Quand on leur adresse la parole, ils font comme s'ils ne comprenaient pas, pour ne pas être obligés de répondre. Ils n'ont pas envie d'aller à l'école, de faire des devoirs, d'apprendre des leçons. Il faut les comprendre. Ils sont obligés d'être sérieux toute la nuit. Ils ont besoin dans la journée de se détendre. Alors, ils font des bêtises. Voilà.
Merci Jean-Louis Fournier. Merci beaucoup.